Mais auparavant, je vous avais dit, je vais aborder un point que je vous avais annoncé, j'ai dit que je reviendrai sur la Banque centrale pour vous montrer que notre Banque centrale, c'est-à-dire la Banque centrale européenne qui gouverne la zone euro, a eu un rôle majeur dans la financiarisation de l'économie européenne et qui s'inscrit dans la financiarisation de l'économie mondiale. Elle a eu un rôle majeur, mais un rôle majeur, un rôle néfaste majeur dans la période qui a précédé l'éclatement de la crise. Je vous montre les derniers graphiques, après j'essaierai de vous en montrer pour ne pas vous fatiguer de cette accumulation. Ce graphique vient de la Banque Centrale Européenne. Ce n'est pas l'économiste d'attaque ou d'un syndicat aussi subversif que celui de Vincent Brezé qui l'a construit, c'est la Banque Centrale Européenne. C'est avec les statistiques de la Banque Centrale Européenne. Il y a deux courbes sur cette. Sur ce graphique. Celle du bas mesure l'évolution du taux de la hausse des prix dans la zone euro, qu'on appelle le taux d'inflation. L'inflation, c'est la hausse des prix des biens et des services que les consommateurs achètent ou que les entreprises achètent. On voit que donc de la naissance de la zone euro, donc fin des années 90 jusqu'à la veille de la crise, on a grosso modo un taux d'inflation qui oscille autour de 2% par an. Et ça correspond à la norme qui a été donnée, dictée à la Banque Centrale Européenne, ne pas accepter une inflation de plus de 2% par an. Et pour, lorsque vous avez une inflation de 2% par an, il faut qu'il y ait donc une quantité de monnaie qui augmente chaque année à peu près du même taux. Donc la Banque Centrale Européenne a toujours affiché, depuis qu'elle existe, sous la présidence de M. Duesenberg, puis rapidement de M. Trichet, avant de passer la main il y a 2 semaines ou 3 semaines à M. Draghi, la Banque Centrale Européenne a toujours dit qu'elle acceptait une augmentation de la masse monétaire qui circule dans la zone euro de 2% pour accompagner l'inflation tolérée. Dans la période qu'on a connue de la fin des années 90 jusqu'à la crise 2007, la croissance économique dans la zone euro était à peu près en moyenne, c'est des variations des pays, mais en moyenne autour de 2%, 2,5% maximum, par an. Mais pour qu'une croissance économique de 2% puisse avoir lieu, il faut aussi un accompagnement monétaire du même ordre. C'est-à-dire que lorsque vous avez 2% de plus de biens et services qui circulent dans l'économie parce qu'ils ont été fabriqués et qu'ils sont demandés, eh bien, il faut à peu près 2% de plus ou 2,5% de plus de monnaie pour accompagner ce développement économique. Donc 2% pour accompagner l'inflation tolérée, plus 2 ou 2,5% pour accompagner la croissance économique qui a eu lieu, ça fait 4,5%. Et M. Trichet, pendant 8 ans, et la Banque Centrale Européenne de manière générale, a toujours dit, donc, nous n'acceptons qu'une croissance de la masse monétaire que de 4,5% par an maximum. Au-delà, ce serait un risque inflationniste trop élevé. Mais, quand on regarde la deuxième courbe, c'est-à-dire celle qui est en haut, qui est ici en violet, qui mesure le taux de croissance annuel de la masse monétaire dans la zone euro, vous vous rendez compte que la norme de 4,5% par an qui était officiellement affichée n'a jamais tenu. Et à la veille de la crise de 2007, ce sont les statistiques de la BCE qui nous disent que le rythme annuel de progression de la masse monétaire dans la zone euro, il n'était pas de 4,5%, il était presque de 12%, c'est-à-dire presque 3 fois plus que ce qui est nécessaire au système économique réel, celui qui produit des marchandises pour les entreprises ou les consommateurs. Et alors, où sont passés les 7 ou 8 points de différence entre la norme officielle 4,5 et puis les 12? Ce n'est pas compliqué. La Banque Centrale Européenne a toujours refusé d'accorder facilement du crédit pour nourrir les investissements productifs, pour nourrir l'emploi, pour nourrir la dynamique économique productive. Et elle a lâché la bride sur le coup à tous les crédits qui étaient destinés non pas à l'économie productive, mais à la sphère financière et qui s'est terminée en spéculation. Pourquoi? Parce que toutes les institutions financières, les banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, tous les fonds de placement dans le monde, qui sont constamment à la recherche du meilleur placement financier et qui participent à toutes les concentrations, à toutes les fusions, à toutes les absorptions d'entreprises, à toutes les localisations, délocalisations, relocalisations permanentes, donc qui participent à la restructuration permanente du capital financier. Toutes ces institutions, banques, assurances, retraites, fonds de pension, etc., etc., ont besoin de liquidités de manière toujours plus importante. Et donc, voilà où sont passés les 7 ou 8 ou 8 points d'écart entre la norme officielle et ce qui s'est passé réellement dans cette période-là. Et donc, j'avais commencé en disant que la Banque Centrale Européenne et les autres banques, grandes banques centrales dans le monde, ont fait exactement la même chose, c'est-à-dire que le crédit a été facilité pour nourrir ce gigantesque mouvement que l'on a appelé dans notre jargon à attaque la financiarisation de l'économie mondiale, qui comporte deux aspects principaux. D'abord, le détournement de la richesse produite, la richesse réelle produite qui sont allées aux actionnaires, et ensuite un emballement du crédit pour nourrir donc la restructuration permanente des activités de placement dans le monde. Et donc c'est ça qui a provoqué l'éclatement de la crise dans les années 2007-2008. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un système productif qui n'arrive plus à résoudre la contradiction entre l'évolution de l'offre et l'évolution de la demande, et en même temps un système financier qui s'est emballé à force de voir arriver des masses de liquidités, soit provenant du détournement au détriment du travail, je l'ai dit tout à l'heure, soit en provenant du crédit qui avait été extrêmement accordé largement par le système bancaire dans le monde entier.